Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'enregistrement de ce nouveau podcast avec la thématique mensuelle « Inciter à son entourage à faire plus sans conflit ». Alors, on approche des fêtes de fin d'année, mais cette thématique est très régulièrement à l'ordre du jour. Hein, dès que vous avez une réunion familiale ou même avec des collègues, avec des amis, etc. Et des sujets qui peuvent entraîner pas mal de frictions, de problématiques, de tensions entre vous. Voilà, certains vont culpabiliser, les autres vont réagir au quart de tour, d'autres vont se sentir visés, tristes, etc. Comment on peut les aider à ne pas prendre le messager en porte-à-faux, mais plutôt à intégrer le message et en tout cas à y répondre sur le fond. Les fêtes de fin d'année, forcément, c'est les pires confrontations idéologiques avec ses proches. Donc, on ne va pas vous refaire le pitch du tonton réac, vous le connaissez. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour parler quand même un peu d'écologie ? Parce que c'est le but, hein, avoir des convictions, mais ne pas se les appliquer, ne pas les revendiquer, c'est comme ne pas en avoir. Si vous êtes témoin d'une réflexion sexiste, homophobe, etc., et que vous ne réagissez pas, et bien vous participez à cette culture du viol, à cette culture homophobe, culture raciste, etc. Et bien, il en va de même avec l'écologie. Voilà, on ne peut plus laisser passer des commentaires climato-dénialistes, mais aussi en faveur de l'industrialisme, de cette civilisation qui nous détruit, etc., etc. Donc, c'est difficile de donner une recette magique quand il s'agit de rapports humains, tant tout y est encore plus contextuel. Certains de vos interlocuteurs vont réagir davantage au positif, vont être drivés vraiment par des émotions super, comme certains sont capables de le faire culturellement avec des films qui donnent la good vibes, on va dire. Et d'autres vont trouver ça indécent, comme moi, et vont préférer au contraire des commentaires, des argumentaires très punchy, très dans « il faut qu'on s'indigne, qu'on ait la rage parce que cette société est enrageante », etc. Et donc, certains vont préférer les chiffres, d'autres les émotions, notre passé commun et individuel compte beaucoup. Voilà, donc c'est très compliqué de donner des recettes magiques. Comme souvent chez Edeni, on va introduire de la nuance, on va introduire du contextuel, mais rassurez-vous, il y a quand même de bons principes applicables, comme on l'enseigne en mécanique des comportements, avec notre cours sur les sciences cognitives, les biais cognitifs et la communication engageante dans notre formation écologie santé éthique. Puis nous avons eu envie d'organiser cette table ronde pour vous apporter encore plus d'astuces et de bons réflexes pour garder vos revendications nécessaires et justes, tout en évitant de braquer tout le monde. Alors voilà, après cette introduction un peu extensive, eh bien je vais laisser mes deux invités se présenter, Charline et Claire. On va commencer par Charline. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre vie, votre œuvre et ce que vous aimeriez pouvoir apporter comme petite bille à ce sujet aujourd'hui ?
Alors oui, donc je suis Charline Schmerber, je suis psychopraticienne, j'ai été formée en analyse psycho-organique, qui est une méthode de thérapie qui fait vraiment le lien entre le corps et l'esprit et les émotions. Et je travaille depuis un peu plus de 3 ans maintenant sur le sujet de l'éco-anxiété, dont j'ai fait un peu dada là, ces dernières années, donc j'accompagne des personnes en individuel à Montpellier. Je travaille aussi en distanciel maintenant, depuis le Covid. La visio s'est beaucoup démocratisée. Je travaille aussi avec des entreprises que je peux amener à former. Je fais des ateliers et des exposés, toujours sur la thématique de l'éco-anxiété. Et j'ai créé avec d'autres collègues une association qui s'appelle le RAFU. C'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Donc l'acronyme est beaucoup plus facile à partager que le nom complet. Et en fait, c'est un réseau qui a deux cibles, à la fois les professionnels de l'accompagnement qui sont sensibilisés à ces sujets de manière à tous nous mettre en lien, et aussi le grand public à qui on propose un annuaire et des professionnels de l'accompagnement qui vont pouvoir les entendre par rapport à cette problématique de l'éco-anxiété. Voilà, et j'ai sorti un petit guide de vie pour éco-anxieux en septembre, là, ça fait 3-4 mois, qui restitue un peu la manière dont je peux accompagner mes patients au quotidien depuis que j'ai travaillé sur cette thématique, parce que je pense que tout le monde ne va pas forcément en thérapie, ça ne convient pas forcément à tout le monde, donc c'était une manière de pouvoir proposer des pistes, justement, et j'ai abordé donc le sujet un peu des proches, de comment on parle aux proches, dans un chapitre qui s'appelle « Faut-il saboter ses relations pour mésentente écologique ?» Donc, pour cette session, je pense que je pourrais peut-être apporter la question de quelles sont les barrières psychologiques qui peuvent être présentes et qui viennent un peu expliquer la difficulté parfois à parler avec les proches. Et puis... je pourrais peut-être apporter quelques petites touches sur comment faire ou comment partager des informations qui ne sont pas évidentes à partager. Voilà, j'ai dit, je laisse la place à Claire.
Merci beaucoup, Charline.
Oui, alors je suis, donc moi je suis Claire, je suis sur les réseaux sociaux, donc blog et Instagram depuis fin 2016. L'idée, c'est aussi donc l'accompagnement à la transition écologique en bienveillance et j'essaye le plus possible avec humour. Moi, je suis rentrée, j'ai fait ma transition écologique quand je suis devenue maman. J'ai commencé par le zéro déchet. Puis, tout un tas de portes sont ouvertes à moi et j'ai voulu partager ça. Et au fil des découvertes, j'ai emporté ma communauté avec moi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que je fais à la fois de la création de contenu engagé, de l'influence responsable sur les réseaux sociaux. Et j'interviens aussi auprès des entreprises ou des particuliers sur ces questions-là. Je suis également autrice d'un livre qui est sorti chez Solar sur la consommation et j'ai écrit plusieurs e-books. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'accompagner chacun du mieux possible et surtout en fonction de l'étape où on en est de sa transition écologique. Moi, je suis assez convaincue qu'on ne convainc pas un âne d'avancer et que voilà, il faut arriver à trouver un discours un petit peu du milieu pour pouvoir accompagner le mieux possible. Ça ne m'empêche pas de piquer des coups de sang ou, ou autre. Mais voilà, l'idée, c'est que j'ai choisi en tout cas, du moins sur les réseaux, de transmettre avec bienveillance ce que j'ai pu apprendre moi et ce qui, je pense, peut être utile pour d'autres. Voilà.
Merci beaucoup, Claire. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette première question. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des proches qui n'en peuvent plus, qui jettent l'éponge et qui se disent « moi, j'aimerais bien parler d'écologie, mais à chaque fois, ça génère trop de tension, du coup, j'abandonne. » Et comment vous y répondez? Ou alors, si quelqu'un vient vous dire ça, qu'est-ce que vous leur répondriez? Charline, peut-être, puisque c'est aussi l'objectif, c'est aussi la thématique d'un de tes chapitres. D'ailleurs, Anaïs nous dit « livre qui est vraiment génial et je recommande. »
Alors, c'est effectivement un sujet qui est assez récurrent chez mes patients. Je pense, si je recontextualise par rapport à cette année 2022, on a eu la sortie du rapport du GIEC qui est sorti en 3 volets. Donc, j'ai eu des patients qui m'ont envoyé à leurs proches le rapport du GIEC et puis après qui étaient un peu déçus de voir que l'entourage ne s'en saisissait pas et que ça ne générait pas forcément une envie d'échanger à ce propos, à propos de tout ce qu'il y avait écrit dedans et des différents sujets. Donc, ça crée de la frustration et parfois aussi de la colère chez mes patients. Ils me disent, mais en fait, c'est un sujet essentiel et personne, ils ne veulent pas écouter, ils n'ont pas envie d'en parler, ça n'a pas l'air de les intéresser. Donc, comment on fait effectivement pour peut-être aborder le sujet d'une autre manière que à travers les chiffres, en fait? Alors, je leur ai proposé, ou on a réfléchi ensemble à d'autres manières de pouvoir envisager ce sujet, parfois plus par la question de l'expérience. Quand on envoie un rapport ou des études scientifiques, souvent c'est un peu de la matière froide qui n'est pas forcément évidente c'est pas forcément évident d'en prendre connaissance, alors que si on partage une expérience Je pourrais donner deux exemples. Ça peut être aller avec un de ses proches dans une ferme pédagogique pour y vivre quelque chose, pour y passer une demi-journée, puis dire, ben voilà, ça c'est quelque chose que j'aime, j'y passe du temps, je t'explique un peu le principe, on va planter ensemble quelques légumes, ou on va construire un four solaire, ou peu importe quelle est l'activité. Ça peut être un moyen de pouvoir, à travers l'expérience émotionnelle et le partage, donner envie à ses proches de regarder un peu les choses autrement. Et ça peut être aussi quand les gens sont vraiment réfractaires, et ça c'est quelque chose dont j'ai pu parler avec des mamans d'ados, dont les ados étaient très, mais en fait moi ça ne m'intéresse pas pour le moment l'écologie, ou de pouvoir partager une expérience de... c'est tout bête, mais d'aller marcher ensemble dans une forêt ou dans un coin que vous aimez, et juste de dire, voilà, ça c'est cette nature qui est pour moi extrêmement précieuse et que j'ai pas envie de perdre. Et peut-être l'aborder de cette manière-là, en fait, en disant que, en parlant de soi et en disant que, bah, voilà, c'est cette nature-là, elle est précieuse, je sais qu'elle est en danger par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et cette expérience de partage ensemble, ça peut permettre d'ouvrir un peu des questionnements ou d'ouvrir quelque chose dans la dimension émotionnelle, plutôt que d'être dans des échanges de matière un peu froide, comme je disais tout à l'heure, qui ne vont pas forcément permettre à la personne de s'en saisir autant qu'à travers l'expérience.
Donc, premier conseil de sortir un peu du discours pur et d'aller vers l'expérience. Claire, toi, qu'est-ce que tu conseillerais confronté à ça ?
Alors, moi, comme Charline, je crois mais à 1000% à l'incarnation. Et c'est d'ailleurs ce que je fais depuis le début et ce que j'ai toujours fait auprès de ma famille. C'est l'incarnation l'incarnation joyeuse. Moi, c'est vraiment mon modèle à la fois de fonctionnement, mais aussi de survie par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, ça fait quand même bientôt 9 ans que j'ai vraiment pris la transition écologique en pleine face et que je m'approprie tout ça. Et depuis, je veux dire, pendant un temps, on a vécu notamment chez ma belle-mère, parce qu'on rénovait notre maison. Ma belle-mère, à l'époque, jetait absolument tout dans la même poubelle et dans le vide ordure de son immeuble. Et en fait, c'est vraiment à l'usage, en faisant les choses devant elle. Et aujourd'hui, elle apporte le compost quand elle vient à la maison. Donc, je crois beaucoup à ça. Ça revient beaucoup sur la question du végétarisme aussi. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis végétarienne. Je n'ai jamais été extrémiste dans mes discours, absolument jamais. Par contre, je l'incarne parce que je suis droite dans mes bottes et que je le fais avec beaucoup de joie et beaucoup d'exemples. J'amène toujours quelque chose de nouveau pour découvrir quand on est au repas, invité chez des amis ou des choses comme ça. Donc, je crois beaucoup à cet exemple, à cette valeur d'exemplarité. Et ensuite, donc pour revenir à la question initiale, moi, ce n'est pas forcément mes proches, mais c'est effectivement mes abonnés qui, justement, en cette période de fête de fin d'année, j'ai reçu énormément de messages privés avec beaucoup de désarroi, en fait, de ça, ce mur auquel ils se confrontent. Voilà, la réponse que j'ai, c'est l'incarnation la plus joyeuse possible. Bon, après, j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai un entourage qui est quand même relativement à l'écoute. Et je crois, comme Charline, qu'on peut amener les personnes aussi par l'expérience. Je pense notamment, récemment, j'ai fait l'atelier de Thon, on en avait discuté ensemble, des serious games comme ça, qui sont vraiment des ateliers immersifs, parce qu'il y a toujours, je trouve, une différence entre ce que les gens pensent savoir ou croient savoir et la réalité. Et là, le fait que ce soit une tierce personne, avec des faits, des chiffres qui sont ceux du GIEC, qui sont, on va dire, quelque part un petit peu irréfutables, mais communiqués par d'autres, par une tierce personne, par quelque chose qui est sous forme ludique aussi, finalement, on se ressort de là et on a quand même une vision autre. Donc, je crois que c'est important d'amener, que ce soit dans l'immersion dans la nature ou l'immersion dans un jeu, l'immersion ludique. Donc, pour moi, c'est vraiment incarnation et joie. Voilà, ce que je veux dire.
Merci beaucoup, Claire. Du coup, ce n'est pas toujours possible de mener dans l'expérience quand on est à table, quand on est à la machine à café avec des collègues, etc. Quand l'expérience n'est pas possible, vers quoi on peut orienter, vers quel principe, en tout cas, on peut orienter nos auditorices, encore une fois, en faisant part de notre expérience à toutes trois, de l'accompagnement de l'humain. On va dire de la mécanique des... Alors, on parle en termes d'écologie de mécanique des systèmes, qui est vraiment l'analyse des empreintes environnementales et de comment ça s'imbrique au niveau de la géologie, de la chimie et des systèmes Terre, on va dire. Mais on a cette mécanique des comportements qui est aussi observable chez l'humain autour des biais cognitifs, autour des différents types de communication engageante, etc. Et d'ailleurs... on donne des cours, nous, en communication non violente. Et en communication non violente, la toute première question à se poser avant de rentrer dans les détails de quelle formule magique je peux utiliser pour essayer d'améliorer les choses, c'est de se dire, est-ce que, en fait, j'ai envie d'améliorer les choses? Et ce n'est pas anodin de se poser cette question-là. Parce que lorsqu'on parle de convaincre les autres en termes d'écologie, il faut se poser la question, est-ce qu'on cherche à avoir raison ou est-ce qu'on cherche à être efficace ? Lorsqu'on est face à un éditorialiste de CNews sur un plateau TV, par exemple, on ne cherche pas forcément, lui, à le changer. En revanche, on cherche à incarner la posture de vérité pour essayer de lutter contre les fake news et de lutter contre de fausses informations qui vont se répandre. Donc là, c'est important. Avec nos proches, c'est l'inverse. C'est de se dire, en réalité, j'aurai peut-être pas le dernier mot, je vais peut-être pas avoir raison, mais je vais essayer d'être efficace et du coup d'y aller un peu plus intelligemment en faisant deux pas dans sa direction, quitte à après faire des petits pas en arrière, etc. Et du coup de choisir son bon moment, puisque avec ses proches, a priori, on va les revoir. Et peut-être que parler d'alimentaire, par exemple, autour du repas, c'est rarement une bonne idée. Donc, de bien choisir déjà, est-ce qu'on a envie d'y aller avec cette personne? Parce qu'on a le droit aussi, nous, c'est ce qu'on appelle l'argument « on se lève et on se casse ». C'est-à-dire que parfois, c'est trop douloureux d'affronter le tonton... Je vais y aller dans le pire des cas, hein, le tonton incestueux, le tonton climato-dignaliste, etc. Et en fait, juste, vous avez le droit de vous dire, en fait, là, émotionnellement, j'en ai ras-le-bol. Il y a un énième argument raciste, par exemple, qui vient d'être sorti sur le ton de la blague au repas de Noël. Ils le savent que je ne suis pas raciste, donc que je suis antiraciste, puisqu'il n'y a pas de neutralité, en l'occurrence, dans un système de domination. Parce que si vous êtes neutre et que vous dites « ah ben je ne dis rien », en fait, vous le sentez bien, cette ambiance nauséabonde qui s'installe et cette culture raciste. Donc, en réalité, c'est soit on est antiraciste et donc on fait l'effort, on va au charbon et on apporte nos arguments, soit on se lève et on se casse, on se barre et on dit « il y en a marre ». En fait, si vraiment vous tenez à moi, si vous tenez à notre relation familiale, amicale, etc., en fait, ça, ce n'est plus possible de le faire passer. Et c'est pareil avec l'écologie. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas où vous allez partir, vous allez essayer de réagir. Vous pouvez réagir donc avec des chiffres, mais comme le disait très bien Charline tout à l'heure, il y en a pour qui, ça ne va pas fonctionner du tout. Et donc, on va plutôt être sur l'expérientiel, sur l'émotionnel, sur peut-être l'effet miroir. C'est-à-dire de tendre un miroir à la personne, de dire « Ah d'accord, toi tu penses ça, mais pourquoi tu penses ça ? Et qu'est-ce qui te ferait penser différemment ? » C'est-à-dire dans quel cas tu serais capable de penser des toilettes sèches comme étant quelque chose d'essentiel ? Ah, il faudrait vraiment qu'il y ait plus d'eau ou qu'on me montre ceci. Ah, d'accord, donc les études qui nous montrent que peut-être dans 20 ans, il y aura plus d'eau, est-ce que là, ça te ferait changer d'avis sur les toilettes sèches? En fait, ton argumentaire, il est uniquement sur je peux le faire, donc je le fais, mais ce n'est pas du tout sur l'odeur des toilettes sèches. Ah, si, en plus, ça pue. Ah, d'accord, t'en as déjà senti? Non, jamais, mais voilà. Donc, on renvoie un miroir et on met les gens face à leurs propres contradictions. C'est ce qu'on peut appeler aussi l'effet Guillaume Meurice, si vous avez déjà écouté les chroniques radiophonique de Guillaume Meurice, il aime bien mettre les gens face à leurs contradictions. Vous avez aussi, et je terminerai là-dessus, un petit florilège de contre-arguments qui sont d'abord utilisés plusieurs types d'arguments, c'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Claire, dans l'atelier d'automne, ben on va s'adresser à des personnes qui sont déjà bien sensibilisées et qui acceptent l'argument carbone. Voilà, c'est un truc qui leur parle, etc. Il y en a d'autres, bon, l'argument carbone, à juste titre d'ailleurs, ça ne leur parle pas trop, c'est pas matérialisé dans leur vie quotidienne, donc on va peut-être utiliser l'argument santé. L'argument argent, économique. Voilà, essayez de multiplier les types d'argumentaires pour arriver à vos fins. Par exemple, les migrants, vous n'êtes pas toujours obligé de commencer par l'éthique parce qu'il y en a qui ne partagent pas votre éthique et c'est OK. En philosophie éthique, on apprend l'humilité de se dire en fait, il n'y a pas une manière de vivre, d'avoir une déontologie. C'est plutôt une manière de faire société, mais il y a plusieurs manières de faire société. Il y en a qui vont préférer l'autoritarisme à l'anarchisme, par exemple, sans dominant. Donc, c'est important de pouvoir présenter différents types d'arguments. Et voilà pour un petit peu un panel de nous, ce qu'on utilise en mécanique des comportements. De manière, du coup, très concrète, pratico-pratique, pour faire suite à cette liste de petits arguments, de petits tips qu'on peut utiliser autour d'une table si quelqu'un, par exemple, nous sort une aberration écologique. Qu'est-ce que vous pourriez donner, Claire et Charline, comme indication ou comme réflexion ou comme principe ou de ressources très concrètes à nos auditorices? Claire, peut-être d'abord.
Alors moi, j'essaye toujours, parce que j'ai appris que c'était quand même une zone dans laquelle on pouvait se rencontrer, l'écoute. C'est-à-dire que c'est pas forcément la façon dont je suis construite, mais par contre, je me rends compte que, ben, tu as parlé tout à l'heure de la communication non violente, on est quand même ça, c'est d'écouter l'autre et pas forcément imposer son regard. Moi, par exemple, qui suis dans une famille nombreuse, je me rends compte aussi clairement que si je fais le choix de passer du bon temps avec ma famille, j'ai en aucune façon la possibilité d'être extrémiste dans le zéro déchet parce que c'est pas du tout la façon la plus probante qui me permettra d'avoir du bon temps avec ma famille parce qu'en soi, personne, enfin, il n'y a pas besoin de l'être forcément pour être entre guillemets quelqu'un qui est avancé écologiquement ou qui voilà. Donc en fait, il faut aussi accepter qu'on peut mixer un petit peu tout ça pour avoir une situation qui est pas parfaite, mais qui est celle qu'elle est. Donc, moi, la première posture que j'ai, c'est d'écouter déjà un petit peu comme tu l'as dit, c'est-à-dire en face à l'argument, dire ben, en fait, oui, je veux bien, et explique-moi où est-ce que tu l'as entendu et pourquoi tu l'as compris de telle façon. Et parce que derrière, si on va dire à partir d'un même argument, on peut tout à fait avoir deux sons de cloche ou trois. Et donc déjà, dans une posture, effectivement, vraiment d'écoute, en disant, écoute, moi, je veux bien entendre ce que tu as à me dire. Et après, derrière, on en discute. Je pense que déjà, c'est pour moi une sorte de posture aussi que de dire, je suis là, je t'écoute. En fait, on est là pour en discuter. Et après, voilà, dans la situation très contextuelle, deux pas, on s'en va et on se lève. Hein. On sent qu'il y a une possibilité de communication. Je pense que c'est aussi à l'instinct de savoir qu'il y a des fois où ce n'est pas possible. Alors moi, je me suis rarement retrouvée dans une situation comme ça. Une fois sur le végétarisme, j'ai eu cette posture-là, de dire... J'étais critiquée en disant que je mettais en danger ma famille parce qu'on était végétarien à la maison. Bon, c'était la première fois, donc ça m'a fait un peu l'effet d'une claque. Je n'étais pas préparée. Par contre, une fois que j'ai un petit peu accusé le coup, en plus, c'était quelqu'un de ma famille, une tante de mon père. Je me dis, mais en fait, OK, d'accord, ça, c'est ton avis. Par contre, j'aimerais bien savoir en quoi, quels sont tes arguments pour me dire qu'en gros, être végétarien est mise en danger par rapport à un régime carnivore. Et là, bizarrement, en fait, il y a un échange qui a pu commencer. Ce qui n'aurait pas été possible, je pense, si je m'étais braquée ou si je m'étais tue, hein, parce que ça aurait pu être une alternative de dire, en fait, ben, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le débat avec elle. Et, voilà. Mais en l'occurrence, c'est quelqu'un que j'aime bien. que j'apprécie. et donc, en fait, derrière, on a débattu et on est arrivé à la conclusion qu'elle fumait depuis 40 ans et que probablement, c'était beaucoup plus en danger que moi et le végétarisme à la maison. Bon, bref. Donc, c'est pour montrer aussi des fois qu'on a une vision de la situation qui peut être à un moment donné modifiée par la posture qu'on peut adopter. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait une réponse à la question, mais voilà, moi, c'était un petit peu...
Non, mais si... C'est très clair, l'argument de l'écoute. C'est vrai que parfois, le meilleur argument, c'est de se taire et de laisser l'autre s'apercevoir lui-même en fait, de pourquoi il pense cela et d'éventuellement son agressivité, de ce que ça renvoie sur lui aussi. Charline, des conseils d'expertes sur le sujet que tu reçois peut-être en consultation?
Mais déjà, moi, je plus sois ce que tu dis, Claire, que la posture d'écoute, c'est très important. Je dirais déjà de prendre un peu de recul, même si parfois ce n'est pas évident, mais de pouvoir comprendre que la personne qui va réagir de manière peut-être négative ou dans le rejet, elle peut avoir plein de barrières psychologiques qui font que elle n'arrive pas à entendre pour le moment. Et je trouve que déjà, pouvoir comprendre ça, que ce n'est peut-être pas qu'elle ne veut pas ou qu'elle se dit que vous êtes en train de dire absolument n'importe quoi, c'est qu'il y a une forme de temporalité aussi individuelle et qui fait que parfois, on ne peut pas entendre certains types d'informations. Je vous prends l'exemple là j'ai eu un échange avec une patiente qui me disait je ne comprends pas, j'échange avec une de mes copines et puis je pensais qu'elle était très réceptive et puis en fait elle se braque. Et finalement, en échangeant avec cette patiente, on a réalisé que son amie venait juste d'avoir un bébé, donc il y avait des choses qui s'étaient jouées pour elle par rapport au fait d'avoir un bébé dans ce monde qui est un peu en transition, compliqué. Donc, elle n'avait pas forcément envie d'entendre ça, en fait, que pour le moment, ce n'était pas possible. Donc, de se dire qu'il faut pouvoir saisir aussi quelles sont les disponibilités un peu psychiques de la personne qu'on a en face, même si, bien sûr, on ne peut pas être dans la tête de la personne et le savoir, mais déjà d'essayer de comprendre ça et de se dire que l'autre, elle nous rejette. Enfin, ce n'est pas contre nous qu'elle en a. Je pense qu'on est peut-être un mauvais destinataire de colère ou de rejet, mais c'est par rapport à l'information qu'on apporte et qui est très complexe. Clairement, tout ce qui touche à la catastrophe environnementale, c'est quelque chose que Günther Anders, qui était un philosophe allemand, appelle un événement supraliminaire. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un seuil. C'est ça que ça veut dire supraliminaire. C'est quelque chose qui est tellement énorme qu'on n'arrive pas à se représenter. Donc forcément, la personne en face de nous, elle peut avoir plein de barrières psychologiques qui font que ce n'est pas possible peut-être pour le moment d'entendre ça. Donc vraiment intégrer qu'il y a une temporalité et que parfois, ce n'est pas forcément le bon moment. Donc je dirais un peu ça, moi, d'essayer de sentir comment est la personne en face et d'adopter un discours très, très posé et très calme, ce qui n'est pas forcément évident, parce que des fois, on est embarqué dans un argumentaire. Mais ça, moi, j'ai pu le vivre même à titre personnel. Je vois quand je suis super énervée par rapport à ce que la personne peut me dire, et je me dis qu'elle me dit des aberrations, et que ce n'est pas possible, que ça me fait un peu monter en pression, ça ne marche plus, en fait. C'est-à-dire que le dialogue commence à se rompre, parce que quand on essaye de faire passer un message dans une forme de colère ou avec une animosité, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, moi, l'expérience que j'en fais, c'est ça. Donc, essayer de trouver un moyen, peut-être, de se poser, et puis de continuer à échanger, de voir, comme vous disiez toutes les deux, un peu laisser la place à la personne de manière à ce qu'elle puisse exprimer un peu ce que ça lui fait ressentir, ce que ça veut dire pour elle, ses arguments, et lui laisser la place, en fait. Lui laisser la place sans forcément chercher à tout prix à convaincre. J'avais un patient avec lequel j'échangeais sur le fait que on n'a pas à culpabiliser individuellement dans notre échec de pas réussir à convaincre les autres. En fait, c'est pas forcément de notre responsabilité individuelle de convaincre les autres, Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler d'écologie, ce n'est pas du tout ça, mais moi, j'ai des patients qui culpabilisent quand ils n'arrivent pas à convaincre les autres, leur entourage, et qui sont un peu, enfin, j'appelle ça missionnés, en fait, dans une forme de mission d'essayer de convaincre les autres. Et ça, c'est pas notre responsabilité individuelle de faire ça. On a aussi des gouvernements, enfin un gouvernement, des institutions qui ont à faire plein de choses d'un point de vue collectif. Donc il y a vraiment un pouvoir à prendre, enfin en tout cas des actions à mener de ce côté-là. Donc c'est pas forcément tout sur le poids des individus de chercher à convaincre. Donc de pouvoir c'est important qu'on puisse aussi lâcher la pression ou la responsabilité qu'on pourrait sentir individuellement de absolument chercher à convaincre. Voilà, et un petit outil que j'ai partagé là, un groupe en formation, vous le connaissez probablement peut-être, mais les 12 discours de l'inaction climatique qui sont partagés sur le site de Bon Pote. Il en a fait un jeu avec les 12 cartes de l'inaction, et ça je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est fait à partir d'un article scientifique qui a identifié 12 discours qui vont justifier le fait qu'on n'agisse pas. Et par rapport à ces, comme par exemple, enfin j'en prends un, ça va être c'est déjà trop tard, donc ça ne sert à rien d'agir. Et par rapport à ça, il y a des arguments très simples, très factuels, de qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à quelqu'un qui va nous dire, bon, bah, au repas de Noël, non, mais qu'est-ce que tu nous saoules avec ton écologie, de toute façon c'est foutu. Il y a 3 arguments qui viennent pour proposer des faits, des choses claires qui viennent bien répondre à ça. Voilà, je trouvais que c'était pas mal, parce qu'on n'a pas forcément tous le bon argumentaire, de pouvoir utiliser quelque chose qui a déjà été pensé et fait en partenariat avec des scientifiques.
Merci Charline. Oui, je trouve très intéressant cette question de quelque part la charge mentale de convaincre positivement ou pas. Rokhaya Diallo avait cette phrase qui disait, en fait, moi, je c'est mon métier de convaincre. Donc, ne me remerciez pas, ne me félicitez pas et ne vous... voilà, ne vous culpabilisez pas de ne pas être à ma hauteur de ma capacité de convaincre en plateau, parce que moi, c'est mon métier, en fait. Je suis rhétoricienne, je suis journaliste, et donc je suis là pour avoir les bons chiffres, pour toujours avoir le bon mot, etc., et pouvoir envoyer des punchlines à des personnes qui sortiraient des fake news, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se poser cette question-là, et au-delà de la professionnalisation, effectivement, d'un argumentaire construit sur un sujet d'expertise, il y a aussi la capacité personnelle, la compétence personnelle que tout le monde n'a pas, et ce n'est pas grave d'être un bon rhéteur, d'être un bon penseur, etc., d'avoir une capacité rhétorique, langagière aussi, qui soit pertinente. C'est d'ailleurs une source de discrimination dans notre société très, très forte, qui est liée au langage, qui est liée à l'oralité, puisque les hommes politiques, ils ont des coachs, ils sont payés pour ça dans les grandes écoles de commerce, dans les grandes écoles, les IEP, il y a aussi les instituts d'études politiques, il y a aussi des cours de rhétorique, et il y a plein de métiers beaucoup plus intéressants, beaucoup plus essentiels, qui aillent du paysan à la boulangère, etc., ou au maçon, qui n'ont pas ces capacités rhétoriques. Et ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas des choses intéressantes à dire, mais néanmoins, c'est normal que voilà, cet argumentaire ping-pong cinglant qu'on peut observer sur des plateaux télé ne soit pas de la compétence de tout le monde. C'est ce qu'on observe aussi dans les héritiers, cet ouvrage de Pierre Bourdieu, qui montre aussi ce patrimoine de compétences très important, ce patrimoine culturel qui se transmet de génération en génération. Et c'est vrai que c'est une réflexion que je n'avais pas du tout. Donc, merci Charline de l'avoir apportée. Est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire par rapport à ces sujets-là, par rapport à des choses très précises que vous auriez aimé avoir comme tips pour terminer cet échange sur comment inciter ses proches à devenir plus écolos sans se les mettre à dos? sachant que effectivement, on a parlé, on a quand même donné beaucoup de pistes, de réflexions contextuelles, de vous poser la question de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou est-ce que j'ai envie d'être efficace, est-ce que c'est de mon rôle ou pas. Alors, l'écologie, il ne faut pas non plus le voir comme un sujet je voulais parler d'art contemporain, mais en fait, avec cette personne qui n'y connaît rien, ce n'est pas possible, etc. C'est quand même un sujet de vie ou de mort pour beaucoup de personnes sur la planète. Alors, nous, privilégiés que nous sommes pour le moment, moins. C'est vrai que c'est comme le sexisme ou le racisme, c'est difficile de rester... tempéré, on va dire, sur ces questions, comme disait Charline. On a très, très envie parfois de monter très vite dans les tours, et à juste titre. Je pense que c'est important aussi de pouvoir s'indigner sur ces sujets et de transmettre cette indignation et de ne pas laisser les gens non plus s'en sortir tranquillement avec leur âme, en étant ultra bienveillant toujours avec eux, en se disant « Ah, oh, mais il est raciste, il est sexiste, il est climato-dénialiste, mais... c'est parce qu'il n'a pas encore fait le cheminement dans sa pensée, c'est pas un bon moment, il doit être stressé, il doit être mal dans sa peau. » Oui, enfin, tout le monde a ses problèmes, ça n'empêche que tout le monde n'est pas un gros con non plus. Donc, on peut ne pas toujours avoir le droit de ne pas donner les excuses à tout le monde, surtout quand ce sont des personnes en position de pouvoir. Et en même temps, encore une fois, la fameuse nuance, la complexité de ce monde, c'est de se dire que y a aussi du déterminisme social, il y a aussi des gens qui ont leurs histoires, et que nous, on pense ce qu'on pense, pas parce que nous sommes des personnes géniales, mais parce que aussi la vie a mis sur notre chemin des pistes, des réflexions, comme aujourd'hui Claire et Charline nous les mettent sur les nôtres. Laura nous dit qu'il y a un site, ça commence par moi, de Julien Vidal, pour cibler ce qui pourrait parler le plus à la personne pour qu'elle s'y mette à travers l'éducation, l'énergie ou toute autre chose. Oui, c'est vrai, tout à fait, ouais. Ce dont parlait Charline tout à l'heure, c'est Bon Pote, si vous voulez retrouver la ressource. Vous avez un petit test en ligne où vous pouvez, c'est un petit jeu et vous avez plusieurs... plusieurs scénarios possibles de questions qui peuvent arriver au repas de Noël. Vous avez aussi Floraison pour un blog qui apporte pas mal de, on va dire, de réponses à des arguments fallacieux qui arrivent très souvent. Quel conseil donner à une personne très éco-anxieuse qui regoute grandement le repas de Noël ? Charline, une personne très éco-anxieuse.
Moi, je dirais de peut-être pas focaliser sur, même si c'est pas évident, sur ce qui va pas bien aller. Je caricature, mais si vous vous retrouvez à manger du foie gras, à manger du saumon avec une débauche de cadeaux de ce monde de consommation, mais peut-être de vous focaliser sur les liens positifs que vous pouvez, enfin sur les échanges, d'essayer de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de garder de ce repas de Noël, c'est quoi le bon que je peux garder si je fais abstraction de tout ce qui me dérange et que je ne vais pas pouvoir forcément faire changer pendant ce repas de Noël. Et il y aura peut-être une discussion avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un jeu, enfin je ne sais rien, un jeu de société avec des enfants, ou quelque chose qui sera bon de garder, en fait. Je dirais ça.
Merci beaucoup, Charline. Claire ?
Ouais, moi, pour rebondir, je pense que, et c'est les échanges que j'ai aussi avec mes abonnés, c'est que, enfin, je rejoins effectivement Charline là-dessus, tout va pas se jouer au repas de Noël. Quelque part, et que, encore une fois, moi, j'ai énormément... je me suis fait du bien le jour où j'ai compris qu'effectivement je faisais d'abord les choses pour moi avant d'essayer de convaincre les autres. Je pense que déjà ça décharge énormément mentalement, donc effectivement que c'est pas au repas de Noël que l'avenir du monde va se décider, et que peut-être c'est le moment de voir aussi si jamais, et c'est le cas de certains de mes abonnés, que si justement en fait cette débauche de cadeaux, de nourriture qui ne convient pas, etc., malgré ça on n'arrive pas à trouver en fait notre place parce que les sujets ne nous correspondent pas et qu'on ne trouve pas le lien, il y a aussi des gens qui font le choix de ne plus faire Noël avec des gens qui ne sont plus en raccord avec eux. Donc je pense que c'est c'est aussi bien d'être dans une observation un peu fine, de se laisser la porte ouverte aussi à la surprise, comme disait Charline, de se dire, mais en fait, pourquoi je suis là, pour voilà, tisser des liens avec des gens, même si on n'est pas toujours d'accord, il y a toujours quand même le lien de la famille proche. Et s'il n'y est pas du tout, on peut aussi dire bye bye, je m'en vais, de façon en disant ben, en fait, moi, ça ne me convient plus de passer Noël comme ça et je ne souhaite plus faire Noël. Mais ça permet d'essayer de ne pas partir dans une posture qui est déjà effectivement négative en disant ben, en fait, ça va être l'enfer, je ne vais pas réussir à discuter des sujets qui m'intéressent, etc. Parce que c'est pas forcément c'est pas la COP, même si c'est pas vraiment le bon exemple, mais le repas de Noël n'est pas la COP 27 quoi. Donc c'est pas forcément à ce moment-là que tout va se décider et qu'on peut y trouver voilà, de l'humain, des choses à partager, et que moi je pense aussi que ça se prépare un petit peu en avance ces fêtes-là. Enfin, moi, je le vois notamment par l'incarnation dont je parlais au début, en préparant le terrain un petit peu à l'avance, notamment par rapport à la question des cadeaux, etc. Alors, même s'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'écoute, il faut trouver le juste milieu, le curseur entre, ben, en fait, je suis d'accord pour laisser un petit peu d'espace pour que la personne puisse offrir le cadeau qu'elle veut, mais en même temps, j'ai aussi besoin d'être respectée dans mon moi, donc arriver à trouver cet équilibre-là et de le préparer un petit peu en avance. Moi, j'ai appris sur le tard, et notamment avec ma famille, que on a trouvé des systèmes, il y en a plein, hein, Secret Santa, les listes, etc. Bon, il y a plein de choses, préciser qu'on veut un cadeau d'occasion, qu'on n'en veut qu'un, enfin, il existe plein de systèmes qui permet, mais pour moi ça se travaille un petit peu en amont pour pouvoir effectivement un petit peu essayer de détendre la chose. Et si malgré tout ça, le fait qu'on se laisse un petit peu ouvert à la possibilité que ça se passe bien, parce qu'on est là pour le lien, qu'on est là pour la famille, si malgré tout ça, c'est trop pesant pour nous, on a aussi, moi c'est pas le cas dans ma famille, on a aussi la possibilité de dire non, je veux plus en fait subir ça. Je sais que moi, dans mes abonnés, les conclusions que j'ai eu beaucoup, les retours que j'ai beaucoup eu, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, nous, à force d'avoir préparé le terrain et qu'on voyait que ça ne fonctionnait plus, on a aussi décidé de se protéger et de ne plus fêter. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là, mais je rejoins Charline sur le fait de se laisser ouvert à la possibilité de surprise du lien familial, du lien de proche, avec l'arrière-pensée de se dire on ne réglera pas tous les conflits de la crise écologique à un repas de fête, quoi. En gardant aussi à l'esprit ce que tu disais au démarrage, qu'on a aussi le droit de ne pas être dans de ne rien dire et de s'indigner, voilà.
Merci beaucoup Claire. Non, c'est super intéressant. Hein. Là, on a vraiment plein de nouvelles pistes de réflexion, de pas forcément s'isoler, effectivement, de pas rester dans sa bulle. Du coup, de faire un effort pour Noël, de rester avec les autres, de peut-être choisir d'abord d'autres sujets de conversation, d'abord trouver ce qui nous est en commun avant d'aller sur ces sujets un peu plus épineux, de s'y préparer. Donc de s'y préparer soit en cherchant des arguments, des chiffres, des choses qui vont nous mettre à l'aise là-dessus, ou de s'y préparer en avance avec la CNV, comme tu disais Claire, c'est-à-dire de se dire « Ok, moi j'ai envie que ça se passe bien parce que je vous aime, vous êtes ma famille, vous êtes mes proches. » Du coup, pour moi, c'est important, je suis éco-anxieuse. Il y avait quelqu'un qui disait « Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on est éco-anxieux ? Encore faut-il que les gens connaissent la définition ?» Pour ça, vous avez le livre de Charline qui donne des très bonnes définitions très simples. Voilà, on peut dire, voilà, moi je suis éco-anxieuse. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Je vous demande pas de tout vous renseigner, mais est-ce que ça vous va si cette année si vous apportez des cadeaux, bah, c'est uniquement de l'expérientiel ou de l'alimentaire végétarien, est-ce que ça vous va ? Et on peut être surpris positivement. De toute façon, le non et le négatif, vous l'avez déjà. Partez du principe que vous l'avez. Du coup, ça ne peut être que mieux si vous anticipez et que vous proposez aux autres les choses. On a aussi Charline qui propose à Pierre le syndrome de l'autruche de George Marshall, qui est effectivement un livre très intéressant sur les barrières psychologiques à l'échelle de l'individu et du pays. Et tout ne repose pas sur l'individu, en effet. Donc, on peut très bien aussi se retourner ensemble vers un ennemi commun qui serait le gouvernement, les entreprises qui proposent du plastique. En fait, effectivement, la demande est importante, mais dans notre société, l'offre l'est encore plus. C'est-à-dire que souvent, maintenant, la demande suit l'offre et non plus l'inverse, comme avant les années 50. Merci pour tout ça. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ça fait déjà 50 minutes qu'on discute ensemble, donc on va devoir rendre l'antenne. Je vais laisser le mot de la fin, du coup, à Charline et à Claire. Le mot de la fin libre et une ressource que vous pourriez partager à nos auditorices. Charline, d'abord.
J'ai été ravie de pouvoir partager avec vous ces 50 minutes précieuses d'échanges et très stimulants sur ce sujet qui moi me passionne. Et qu'est-ce que je pourrais dire comme ressource? Vous partagez que hier j'ai fait des bredeles vegan. Je m'appelle Charline Schmerber, donc je suis d'origine alsacienne, et en Alsace, il y a une grande tradition autour de Noël. Et donc là, j'ai fait, pour la première fois, j'ai testé des recettes un peu véganes, sympas, de petits biscuits de Noël. Donc j'ai rempli une grande boîte, et c'est vrai que je devais préparer la réunion du refus de notre réunion mensuelle le lendemain, et ça m'a vidé la tête de faire ça avant. Donc je vous conseille effectivement la pâtisserie en joie avec Noël. C'est à faire à plusieurs. J'ai fait ça avec ma petite famille, c'était très sympa. Donc je vous conseille de faire ça. Et puis pourquoi pas en ramener au repas de Noël, ça peut être un moyen de faire adopter des nouvelles recettes véganes, pourquoi pas. Voilà,
merci beaucoup Charline. Claire? Attention, est coupé Claire.
J'ai dit, j'ai été vraiment ravie de cet échange aussi. C'est un sujet qui revient beaucoup et je pense qu'il faut se focaliser. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire sur les millions de pistes qui s'offrent à nous, positives. C'est un petit peu, je pense, c'est ça aussi. On peut aussi proposer à tous ces gens-là des millions de pistes d'action. Il y en a forcément une pour chacun d'entre nous. Et hier, j'ai mangé chez une amie qui, je ne pensais jamais qu'elle me dirait ça, parce qu'elle était loin de tout ça, mais qu'elle avait découvert la méditation, qu'elle ne s'entendait pas du tout à ça. Et moi, c'est une ressource qui est tellement précieuse pour moi, que ça nous a fait en fait en discuter pendant une heure, pendant que d'autres regardaient la Coupe du Monde de foot. Et je me suis dit que... En fait, voilà, il faut se laisser aussi surprendre et qu'il y a des belles choses qui arrivent. Et donc, du coup, ça nous fait un point de plus à partager, alors que vraiment, ce n'est vraiment pas une personne avec qui je pensais que j'aurais pu partager ça, et que la méditation m'a tellement aidée, moi, à surmonter tout ça, que j'étais ravie de partager ça avec elle. Voilà.
T'es en mute.
Oui. On ne t'entend plus, Hélène.
Hélène.
Merci à toutes les deux. Et le devoir m'appelle. Donc, ça va être le bon moment pour clôturer ce podcast. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique à aborder autour de l'écologie, de la santé et de l'éthique. Merci et
bon après-midi, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir, Charlie.
Au revoir.